Oui, allô?
Oui, allô, vous m'entendez?
Oui.
Oui, Nathalie Crever, vous avez fait de me joindre?
Oui, bonjour, c'est Marine Hilario du CIDJ.
Oui, bonjour, je suis désolée, j'ai pas pu décrocher à
Il
temps.
n'y a pas de souci. Je vous dérange pas trop, vous voulez peut-être qu'on décale un peu?
Non, dites-moi.
D'accord, ok. Donc en fait voilà, j'écris un article sur, donc sur les personnes à haut potentiel intellectuel et plus particulièrement je m'intéresse aux adolescents qui sont au collège, lycée et aux jeunes adultes en études supérieures. Voilà, et du coup, voilà, j'essaye un peu de me renseigner sur ce sujet qui a l'air quand même assez vaste, assez délicat, assez compliqué. Et voilà, c'est pour ça que je cherchais à joindre une psychologue pour en savoir un petit peu plus sur le fonctionnement de ces personnes et savoir aussi voilà, comment on fait pour se faire diagnostiquer, pourquoi se faire diagnostiquer, enfin, toutes ces questions un petit peu autour de cette problématique. Voilà.
D'accord, très bien. Vous, de votre côté, vous êtes
Oui,
journaliste, psychologue?
je suis journaliste, je travaille pour le site internet du CIDJ. Donc le CIDJ, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le Centre d'information et de documentation jeunesse qui est basé à Paris. Et en fait, on a un site internet qui est un site d'info pour les jeunes qui ont entre 15 et 30 ans. Et donc on n'avait
D'accord.
rien sur ce sujet et donc on
Okay.
trouvait intéressant de parler de ce sujet. Voilà. Donc c'est dans le cadre d'un article écrit pour notre site internet.
D'accord, très bien.
Voilà.
Eh bien, écoutez, je vous ai quelles sont vos questions?
Alors,
Dites-moi,
bah déjà pour
qu'est-ce que
commencer,
vous aimeriez savoir?
voilà, pour commencer, déjà, comment on pourrait expliquer qu'est-ce qu'une personne à haut potentiel intellectuel?
Alors, une personne à haut potentiel intellectuel, donc tout d'abord, il faut savoir que dans l'univers un peu médiatique français, il existe beaucoup de discours
Oui.
de qualité très inégale sur le sujet du haut potentiel, et notamment, il y a beaucoup de mythes. Voilà. Il y a beaucoup de choses, en fait, qui sont dites, puis qui sont relayés de manière grand public et dans les médias, et qui s'avèrent d'un point de vue scientifique, voilà, quand on revoit toutes les études internationales, y compris avec des consensus scientifiques sur le sujet, qui s'avèrent fausses. Ça, faut le
D'accord,
savoir, déjà.
d'accord.
Et le problème, c'est que dans le monde francophone, en raison de certaines, on va dire, voilà, de certaines positions médiatiques, ce discours-là a malheureusement beaucoup de portée, y compris jusque dans l'éducation nationale.
D'accord.
Voilà. Donc une personne à haut potentiel, la définition consensuelle, en
Oui.
gros, c'est une personne qui a une intelligence très élevée.
Oui.
Voilà. Et on situe un seuil au-dessus, à deux écarts-types au-dessus de la moyenne. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les mesures de l'intelligence ou pas.
Bah, en fait, je sais qu'on parle de QI, mais il me semble que l'intelligence, c'est pas uniquement ça et qu'il y a aussi d'autres formes possibles. Enfin, il y a les
Alors,
intelligences.
je vous expliquerai après
Ok.
ce que nous permet de dire ou pas le QI, effectivement.
D'accord.
Mais globalement, en tout cas, on se réfère aux tests qui sont habilités à mesurer l'intelligence, en tout cas à avoir une idée de performance intellectuelle globale. Bien sûr, ce n'est pas exhaustif, hein, c'est une idée du fonctionnement intellectuel global. Et qui sont, donc pour les adultes, c'est la VAIS, l'échelle de Wechsler.
D'accord.
Notamment en quatrième édition, vous trouverez hein, le nom des tests si vous voulez sur internet. La WISC pour les enfants, la WISC 5, le WISC 5.
D'accord.
Maintenant, la dernière édition, sur des batteries d'évaluation de l'intelligence où il y a plusieurs sub-tests, c'est-à-dire plusieurs épreuves dedans, qui mesurent chacune des composantes de l'intelligence différentes. Même si
D'accord.
ce n'est pas toutes les manifestations de l'intelligence, parce que ce ne serait pas possible en fait de mesurer toutes les manifestations possibles de l'intelligence
Oui.
à travers un test, mais qui donne une idée à travers certaines épreuves représentatives de certaines composantes importantes de l'intelligence.
D'accord.
Et c'est ça qui donne, normalement, ça donne des scores dans des compétences différentes, par exemple la compréhension verbale, le raisonnement fluide, les compétences visuo-spatiales. Donc il y a plusieurs indices qui s'expriment sous forme de QI aussi. Il y a 4, 5, 1, 5 dans le WISC, 5 indices. Il y en a 4, par exemple, dans la VAI, donc c'est plus compliqué que juste au QI,
D'accord,
voyez? Mais
oui.
c'est pareil, ça donne un chiffre dont la moyenne normalement est de 100 et l'écart-type de 15, ça veut dire que 68% des gens obtiennent un score qui se situe entre 85 et 115. Voilà.
D'accord.
Pour vous donner une idée, le seuil consensuel en recherche scientifique pour parler de haut potentiel intellectuel, c'est 130.
D'accord.
C'est le seuil, on va dire, repère.
Oui.
Voilà. C'est-à-dire que pour l'inclusion dans les études scientifiques, on prend ce seuil-là. Le QI, c'est un indice qui est fait à partir d'un certain nombre de subtests, de la plupart des subtests de chaque batterie d'intelligence.
D'accord.
C'est ce que je veux dire.
Oui.
C'est-à-dire que, voilà, c'est une idée du fonctionnement global, mais sous un QI d'un certain nombre peut se cacher des indices très différents dans des domaines spécifiques.
Mmh.
Ah, par exemple, on peut être très bon en compréhension verbale, moins bon en visio-spatial, vous voyez ce que je veux dire?
Oui, mais du coup, pour être un haut potentiel...
C'est une note un petit peu globale, mais en fait, quand on est clinicien, on ne s'arrête pas juste à la note totale, on regarde le détail des indices, c'est-à-dire dans les compétences spécifiques, quel profil a la personne. Ça veut dire que vous pouvez avoir ce qu'on appelle, nous, des zones de haute potentialité.
Ah, d'accord.
Ça, c'est ce que disent notamment Sophie Brasseur et Catherine Cuche dans un livre qui est paru en 2017.
Oui.
C'est-à-dire que quand on regarde des profils, c'est pour ça qu'on va peut-être avoir des profils différents en fonction des compétences intellectuelles de chacun, où on peut avoir une zone de haute potentialité, c'est-à-dire un indice qui est dans la zone à 130 et d'autres indices qui ne le sont pas.
Mm.
Donc il faut toujours regarder un peu plus loin que le QI total. C'est ce que je veux dire.
Et du coup, oui, une personne qui va avoir, par exemple, une note moyenne donc de supérieure dans un domaine, mais pas dans un autre, est-ce qu'elle sera quand même... on appellera cette personne, c'est un peu bizarre de dire ça, mais elle fera partie des personnes à haut potentiel quand même, ou il faut que dans tous ces domaines-là, elle soit au-dessus de la moyenne pour faire partie de...
Au-dessus du 130, vous voulez dire.
Alors, oui.
En fait, ça dépend de l'écart.
D'accord.
Si vraiment l'écart est trop, s'il n'y a qu'un seul indice et que tous les autres, par exemple, sont à 100, on ne pourra pas parler de haut potentiel, mais on parlera juste d'une zone de haute potentialité.
D'accord.
C'est ce que je veux dire.
Oui.
Si par contre, on va dire qu'il y a vraiment un indice qui est plus élevé que les autres ou deux et que les autres sont un peu plus bas, mais que ça reste quand même des performances très élevées, on parlera de haut potentiel.
D'accord.
Alors, ça, c'est le problème, c'est les limites de la catégorie. Pour des raisons pratiques, on a dit 130. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les tests d'intelligence, c'est-à-dire quand vous passez l'école, c'est comme quand vous passez un examen. Hein. Vous pouvez plus ou moins bien mener en fonction de l'examen, plus ou moins pratique, plus ou moins tout ça. Vous pouvez plus ou moins bien réagir, plus ou moins bien, on va dire, actualiser vos performances en fonction de ce que vous auriez pu faire. Ce qui veut dire qu'un test intelligent, ça va être sensible à plein de choses. Ça va être sensible à l'anxiété, ça va être sensible au fait qu'on soit déprimé, qu'on soit fatigué, qu'on soit sous substance, par exemple. Ou ça va être sensible aussi à certains facteurs de personnalité. Si on est perfectionniste, on va peut-être prendre plus de temps dans les épreuves chronométrées, on va perdre un peu de temps et perdre un peu de points bonus. Mais par contre, on aura plus de réponses exactes, on se trompera moins souvent.
Oui. C'est
ce que je veux dire, tout ça compense au niveau des notes. Donc il y a plein de choses qui influencent sur les performances. Ça, on le comprend bien quand on passe un examen, ben, quand on passe un test de QI, il y a les mêmes implications. Vous voyez ce que je veux dire. Sauf que c'est très contrôlé et que du coup, pour tenir compte de ça, c'est-à-dire de l'idée que en fait, si vous l'avez passé hier, demain ou dans 3 mois, vous auriez peut-être eu un résultat un peu différent, on utilise des intervalles de confiance.
D'accord.
Voilà, par exemple, je crois que, hein, pour vous dire, l'intervalle de confiance donc de la zone 130, c'est-à-dire quand on dit, voilà, la moyenne c'est 130, en fait, en réalité, le score vrai, c'est-à-dire ce que la personne aurait obtenu dans 90 ou 95% des cas, ce serait, par exemple, entre 125 et 135.
Oui,
134.
D'accord.
Et un emport de 10, à peu près du 10 ou 11, sur l'intervalle de confiance.
D'accord.
Ça, je peux vous dire même plus précisément si vous voulez vraiment les chiffres, mais disons qu'il y a un intervalle de confiance dans lequel, vous voyez, c'est bien pour dire qu'en fait, on se donne une idée d'eux.
Oui, d'accord.
C'est ça. Et ça veut dire que ça représente à peu près au potentiel 2,3% de la population environ. Ça, c'est le pourcentage théorique.
En France.
Voilà, partout dans le monde. Hein.
Ah, dans le monde, d'accord.
Les évaluations de l'intelligence, toutes les échelles-là, donc, elles sont traduites dans différentes langues.
Oui, d'accord, ok. Ouais,
et à la France, ce n'est pas les gens qui sont repérés. En matière de potentiel, on ne parle pas de diagnostic.
Ah, d'accord.
Le diagnostic, c'est pour un trouble. Vous voyez ce que je veux dire? Le potentiel, ce n'est pas un trouble.
Oui, ben oui. Oui,
c'est
oui.
Une spécificité.
Qu'est-ce qu'on peut dire comme mot? Alors, si ce n'est pas diagnostiqué, c'est repéré.
Identification.
Okay.
On identifie.
Ok, d'accord.
Ça peut être de repérer la caractéristique. Et donc, le potentiel, c'est une différence rare. Un trouble, c'est une différence parce qu'elle se trouve que chez 2,3% de la population environ, en fonction du seuil qu'on choisit, évidemment. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce seuil de 130, au cours de l'histoire, il a pu varier.
D'accord.
Là, c'est le consensus à peu près international, mais en fonction des spécialistes, on peut évoquer des seuils un peu différents. Il y a des gens qui prennent 125 pour tenir compte de l'intervalle de confiance, c'est-à-dire du fait que le score peut varier. Il y a des gens qui prennent 140 en disant non, il faut que la différence soit encore plus rare. Mais disons que si on fait une moyenne, à peu près le consensus, c'est autour de 130.
D'accord.
En tenant compte de l'intervalle de confiance.
Oui,
c'est-à-dire la variation possible des notes. Pas un seuil fixe.
Oui. En termes de vocabulaire, donc le terme qui est juste, c'est haut potentiel intellectuel, mais qu'en est-il de quand on dit surdoué, précoce, j'ai lu aussi zèbre, enfin, qu'est-ce que tous ces termes signifient? Est-ce
Qu'est-ce que tous ces termes viennent dire? En fait, ce que ces termes viennent dire, c'est que évidemment, ça véhicule des connotations différentes.
D'accord.
Par exemple, dans les pays anglo-saxons, on parle de don gifted.
Ah oui, d'accord.
Voilà, c'est comme ça qu'on appelle les personnes à haut potentiel. Là, nous, en France, on peut rencontrer le terme douance, qui est du coup l'équivalent
oui.
de gifted, si vous voulez.
Hein, oui.
On peut rencontrer surdoué. Alors, surdoué, on l'utilise de manière très fréquente, ça fait partie du langage courant. Mm-hmm. Le problème, c'est que ça a véhiculé beaucoup. Il est juste, c'est un terme qui est juste.
D'accord.
On peut l'utiliser comme synonyme. Mais il véhicule des fois, comme il a été beaucoup utilisé, une idée de trop. Vous voyez ce que je veux dire? Comme
D'accord.
si la personne était trop douée et que potentiellement ça devenait un problème.
D'accord.
Donc, ça, il faut faire attention du coup aux connotations qui peuvent y avoir derrière, mais surdoué est correct.
D'accord.
Voilà. On peut rencontrer le terme en France précoce, ça c'est plus pour les enfants, c'est parce qu'en fait,
ah,
il faut comprendre que dans les mesures de l'intelligence, bah oui, on ne peut pas dire d'un adulte qu'il est précoce.
D'accord, oui, c'est
précoce,
vrai.
Ça
oui.
À quoi
oui, oui, c'est vrai. Ouais.
Il a atteint son développement. Donc, ça c'était plus parce qu'au début, on s'est beaucoup intéressé aux enfants.
Oui.
Il y avait des enjeux de repérage en termes d'adaptation pédagogique. C'est-à-dire de se dire, qu'est-ce qu'on fait de ces gens, ces gamins qui ont beaucoup de potentiel et il faudrait qu'on les amène à réaliser au mieux leur potentiel. Donc, peut-être qu'il faudrait adapter la scolarité. Des mesures d'adaptation
oui.
pour continuer à les nourrir, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes et qui développent vraiment des compétences hors normes, voire qu'ils apportent leur contribution à la société hein, à travers des réalisations exceptionnelles.
Mm-hmm.
Donc il y avait tous ces enjeux-là, ce qui fait qu'on s'est beaucoup intéressé d'abord aux enfants. C'était très centré sur les enfants à cause de cette question d'adaptation pédagogique et d'intervention, notamment scolaire. Mm-hmm. Du coup, précoce, c'est parce que dans les tests, en fait, vous avez. On sait que globalement, les enfants de tel âge ont en moyenne tel résultat. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui,
donc, quand
oui,
vous avez
oui.
un enfant qui a des performances très élevées, ça veut dire qu'on pourrait très bien interpréter ces résultats comme étant ceux qu'on retrouve en moyenne chez des enfants plus âgés.
D'accord.
Et c'est pour ça qu'on parle de précocité comme s'il était en avant. En réalité, c'est son développement à lui.
Oui.
Il continuera à être surdoué normalement à l'âge adulte. Vous voyez ce que
oui,
je
vois.
Ce n'est pas comme si tout le monde allait rattraper, comme s'il y avait une ligne d'arrivée que tout le monde rattrapait à la fin, et qu'il était en avance. Il continuera à être au-delà de la mêlée. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, oui, oui.
Là, il aura toujours ses compétences exceptionnelles.
D'accord.
Sauf, je ne sais pas, déclaration d'une schizophrénie, accident. Il y a plein de choses qui peuvent agir sur les compétences cognitives. Mais normalement, si le développement continue normalement, il continuera à avoir des compétences exceptionnelles.
D'accord, ok. Et le mot zèbre, du coup, ça vient de où?
Alors, le mot zèbre, c'est un mot qui a été utilisé, c'est une métaphore qui a été utilisée par notamment Jacques Sachin, je crois, au départ.
D'accord.
Et qui ensuite s'est popularisée, donc ensuite elle est utilisée par beaucoup d'autres personnes. Et le mot zèbre, c'est juste une métaphore, c'est-à-dire c'est une image qui vient un petit peu qualifier des personnes qui seraient un peu... Alors, je pense que dans l'idée de départ, c'est des gens un peu différents, entre guillemets, c'est-à-dire avec une caractéristique qui les rend un petit peu en marge, un peu différents. Bon, d'où la possible, des fois, dérive sur la notion de trouble, vous voyez ce que je veux dire, c'est que ce serait vraiment quelque chose qui générerait des difficultés spécifiques, ce en quoi, avec le recul, on se rend compte qu'en fait, c'est plutôt un avantage, même si ça peut entraîner, en fonction de l'environnement, bien évidemment, des expériences de vie, des expériences parfois de décalage, ou une construction identitaire, on va dire, à plus explorer, parce que justement, il y a une différence rare, et que la personne peut la percevoir, mais globalement, c'est plutôt un facteur de réussite, globalement, en moyenne.
Et
ça
ne
veut pas dire qu'il n'y a pas des trajets particuliers qui sont un peu compliqués, quand justement, on n'arrive pas à répondre aux besoins spécifiques
D'accord.
de la personne à haut potentiel.
Ok.
Ou de l'enfant à haut potentiel. Et du coup, ça, cette connotation-là, moi, j'ai rien contre les métaphores, effectivement, on peut utiliser une métaphore, hein, une image, on l'utilise dans d'autres domaines. Il faut juste faire attention aux connotations qu'il y a derrière, c'est-à-dire aux représentations qui vont être véhiculées.
Oui, 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 d'accord.
Et notamment de ne pas s'enfermer dans une identité de différence irréductible avec l'idée d'une souffrance associée.
Eh oui, oui, oui. Ok. Et est-ce que J'imagine que c'est pas une règle pour tout le monde la même, mais est-ce qu'il existe des signes un peu avant-coureurs? Est-ce qu'il y a des choses qui font que les gens se posent la question? Quels sont ces signes
Ah ben, il y a
qui...
des indices, oui, de se mettre la puce à l'oreille. Évidemment, ça ne vaut pas une évaluation par un spécialiste. On est
Ouais,
d'accord.
ouais,
Mais
ouais.
effectivement, il y a des indices. Hein, de la même manière que pour quelque chose, on peut avoir des indices et puis après confirmer par un spécialiste. Hein, ça, il n'y a pas de souci. Déjà, c'est l'avance dans le développement, c'est-à-dire notamment au niveau du langage. Ça, on retrouve beaucoup, effectivement, des enfants qui ont soit parlé très tôt avec un vocabulaire d'anglais très riche.
Oui.
Voyez? C'est des enfants qui ont du coup une grande vitesse et facilité de compréhension aussi sur des problèmes complexes qu'on retrouvera hein, tout au long de la vie.
D'accord.
Donc c'est ça, plus grande vitesse, plus grande facilité à résoudre des problèmes complexes. Souvent c'est associé à une curiosité plus importante, mais pas toujours,
D'accord.
à une ouverture, à un goût pour les domaines, si vous voulez, complexes, intellectuels, ce genre de choses.
Oui.
Les principaux éléments qu'on va rencontrer chez la plupart des personnes, presque toutes les personnes à haut potentiel.
D'accord.
Après, il y a d'autres choses qu'on peut rencontrer, mais ce sera plus au cas par cas.
Parce que là, j'ai l'impression que ces éléments-là, enfin ces indices, c'est ce qu'on voit chez l'enfant. Quand on est déjà adolescent, voire jeune adulte, ce sont quand même ces, enfin, c'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, une personne va se poser la question et va
Si elle est à haut
potentiellement...
potentiel ou pas.
Ouais.
Alors là, en raison des éléments médiatiques, les gens peuvent être amenés à se questionner sur le haut potentiel pour des raisons qui ne sont pas propres au potentiel.
Ah, d'accord.
C'est-à-dire, comme on véhicule beaucoup l'idée que, par exemple, les personnes à haut potentiel sont toutes hypersensibles, ce qui
Ah
n'est pas
ouais,
juste. Il y en
d'accord.
a qui sont plus sensibles et hypersensibles, qui cumulent les deux, mais en fait, l'hypersensibilité, c'est 15 à 20% de la population. Si vous le mettez en parallèle avec 2,3, vous vous rendez bien compte que ça ne couvre pas toutes les personnes. Enfin,
Non,
que c'est
ouais.
impossible, en fait. Vous avez beaucoup de gens hypersensibles qui ne sont pas à haut potentiel. Et on rencontre des gens à haut potentiel qui ne sont pas hypersensibles.
D'accord.
Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de recoupement entre ces deux caractéristiques, même si on peut les présenter en même temps, bien sûr. Du coup, on a beaucoup de demandes de consultation pour des raisons d'hypersensibilité.
D'accord.
Notamment chez l'adolescent. Moi, je rencontre essentiellement des adolescents, des adultes. Donc, tout ce qui est ado, jeune adulte, c'est une problématique que je connais bien, effectivement, en
D'accord.
cabinet.
D'accord.
Et les motifs de consultation, ça va être souvent cela, soit avec des motifs, des éléments d'hypersensibilité. Donc là, il y a un travail d'information à mener en disant, bah, écoutez, on va voir si c'est associé à un haut potentiel, mais des fois, l'hypersensibilité n'est pas associée au potentiel, pas nécessairement. On va rechercher des indices plus de performance intellectuelle. Et puis, vous avez aussi autre chose qui, là, pour le coup, par contre, est à explorer avec beaucoup plus on va dire, de finesse, parce qu'il y a des choses qui peuvent mener à une différence d'intelligence, c'est tout ce qui est sentiment de décalage.
D'accord.
Les gens vont venir avec l'idée, j'ai l'impression de ne pas être comme les autres. J'ai l'impression d'être différente. J'ai l'impression de ne pas trouver ma place. J'ai l'impression de ne pas trouver des gens comme moi qui fonctionnent de la même façon. Ce qui, dans le cadre d'un haut potentiel, peut être vrai. Si vous avez votre premier de la classe, vous raisonnez sur des choses concrètes, vous avez des goûts intellectuels et puis vous n'avez pas trop de gens avec qui échanger autour de vous parce que bah, vous n'avez pas les mêmes centres d'intérêt et que vous êtes un peu stigmatisé à cause de cette notion de premier de classe.
Oui.
Non, pas toujours populaire, surtout au collège, hein, on est d'accord. En
Oui,
général, les bonnes notes, ça ne fait pas la popularité.
oui.
Sauf
Exactement.
si on a un super charisme, ce
Oui.
qui n'est pas le cas de tous les gamins. Dans ces moments-là, il peut y avoir des phénomènes de harcèlement ou des choses comme ça, et vous allez pouvoir avoir des parents ou des ados qui consultent dans ce cadre-là. Alors là, par contre, il faut bien différencier les choses parce qu'on peut se sentir décalé pour plein de raisons. C'est-à-dire, le sentiment d'être différent, ce n'est pas lié à l'intelligence nécessairement.
Oui.
Être différent parce qu'on a d'autres particularités. Déjà parce qu'on est hypersensible, et
Oui.
qu'être hypersensible dans le rapport aux autres, ce n'est pas facile, notamment au collège, parce qu'en fait, quand il y a des phénomènes de harcèlement, les gens sont plus réactifs. Donc en fait, ça va entraîner des phénomènes. On se dit, bah, tiens, il réagit, c'est plus amusant, entre guillemets. On va continuer un petit peu à l'embêter, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont un peu plus vulnérables
Oui, c'est
à ce
ça.
type de choses. Hein, voilà. Donc dans ce cas-là, il faut bien explorer, de voir, mais pourquoi tu te sens différent? En quoi c'est différent? Des fois, ça n'a pas de choses à voir avec le haut potentiel, puis des fois, effectivement, c'est quelque chose qui est lié à une différence de maturité intellectuelle, voire parfois, pour certains enfants, certains ados qui fonctionnent vraiment comme des adultes,
Oui.
déjà presque comme des jeunes adultes, avec à la fois une maturité intellectuelle et affective ou émotionnelle plus importante. Et là, pour le coup, ça va vraiment entraîner un fort sentiment de décalage, parce qu'effectivement, ils ne se retrouvent pas dans le fonctionnement de leur père,
D'accord.
du même âge.
D'accord, ok. Et quand
Ils
on parle.
cherchent les intérêts subtils ou ce genre de choses. Donc, ça, effectivement, c'est à mettre. Et puis, l'indice premier, c'est d'excellents résultats scolaires.
Ah, d'accord, quand même. D'accord.
Alors, après, bien sûr, vous avez des trajets différents. Vous avez des gamins, surtout à l'adolescence, parce qu'à l'adolescence, la pression de normalisation est très importante, c'est-à-dire le fait de s'intégrer au groupe.
Oui.
Et comme à ce moment-là, les performances intellectuelles, ce n'est pas forcément ce qui est valorisé. Eh ben, vous avez des gamins qui vont se suradapter, c'est-à-dire qui vont essayer de normaliser leur performance pour, en gros, se rendre plus normal, c'est-à-dire plus acceptable dans le groupe de pères.
D'accord.
Les pères, ça veut dire les enfants
oui, oui.
Les groupes,
oui,
les
oui.
appartenants. Donc ça, il faut faire attention parce qu'effectivement, vous avez des gamins au potentiel qui peuvent avoir des résultats normaux, voire même parfois qui sont en échec parce qu'ils n'arrivent pas à investir, à travailler le système scolaire, mais c'est dû souvent à d'autres choses. C'est-à-dire des difficultés à s'affirmer soi par rapport aux autres ou dans son identité. Mais comme à l'adolescence, c'est très important. Il y a beaucoup d'anxiété sociale à l'adolescence. Le regard de l'autre, c'est très,
oui,
très
c'est
important.
Ça. Mmh. Oui, c'est ça.
Donc, il y a des gamins qui vont être dans cette double chose, soit d'affirmer la différence quand ils la connaissent, au risque de parfois être un peu exclus, soit au contraire la camoufler pour passer inaperçu, entre guillemets.
Donc,
c'est des ados un peu caméléons.
Oui, j'ai un peu l'impression que du coup, quand on va assumer cette différence entre guillemets, c'est un peu le moment où on sait qu'on est, on a cette particularité. Si, tant qu'on n'a pas mis de mots sur ça, j'ai l'impression qu'on va être plutôt dans la posture de s'adapter à son entourage et aux gens qu'on a autour de nous. Ou est-ce que c'est juste une force de caractère ou est-ce que c'est juste... ça dépend.
Il peut y avoir des deux. Vous avez des ados qui, même s'ils le savent, n'en parlent pas aux autres. Ils ne le vivent
d'accord.
pas comme quelque chose avec lequel ils sont très à l'aise.
Ah, d'accord.
Voilà. Donc, il peut y avoir des phénomènes qui continuent de camouflage quand on l'a identifié. Maintenant, évidemment, quand on l'identifie, ça rend plus facile le fait de se l'approprier.
Oui.
Donc, de se construire avec. Après, j'ai envie de dire, pour qu'un gamin arrive à se penser comme intelligent, on n'a pas forcément besoin d'aller passer un test d'intelligence. L'identification n'est pas forcément centrale. Ça va dépendre, en fait, de l'utilité pour l'enfant ou pour l'adolescent.
Oui.
Et de laquelle, si par exemple, effectivement, c'est un ado qui doute de lui, qui a du mal à se penser comme étant capable, là, ça va être intéressant parce que, effectivement, ça va aller dans le sens de la valorisation et du fait de construire une meilleure confiance en lui et de pouvoir réapproprier des choses qui lui appartiennent, qui font partie de lui. Maintenant, à l'inverse, vous avez des ados qui savent qu'ils sont intelligents. Et qui vont parfois même d'une certaine façon être un peu jugeants ou condescendants avec les autres.
D'accord.
Dans ce cas-là, c'est plus une forme de confirmation narcissique ou tout simplement il y a des fois où c'est pas aidant parce que le sentiment de différence, il y a peut-être un potentiel mais il y a peut-être un trouble associé.
D'accord.
Et qu'il ne s'agit pas de ne faire qu'une évaluation intellectuelle, parce que là, il faut faire un bilan complet qui évalue aussi la personnalité ou d'éventuels troubles, parce que le risque en fait c'est de mettre tout sur le dos du haut potentiel.
Oui,
donc,
d'accord.
Si je suis comme ça, si ça ne va pas, c'est à cause du haut potentiel. Pas complètement, peut-être qu'il y a un haut potentiel et autre chose.
Oui, d'accord.
Ça interagit et que c'est pour ça que c'est compliqué.
Mais
pas forcément seulement avec le haut potentiel.
Du coup, c'est pour ça que c'est important finalement d'identifier un haut potentiel auprès de psychologues, auprès de vrais tests, entre guillemets, pour justement...
C'est pour ça qu'il faut toujours faire de vrais tests, premièrement,
ouais.
auprès de gens formés. Il ne faut pas se précipiter juste sur une évaluation intellectuelle. Il faut vraiment qu'il y ait un avis en disant quand il y a lieu de faire une évaluation globale. Et ensuite, des fois, il faut aussi entendre que ce n'est peut-être pas le moment pour évaluer l'intelligence.
Ah, d'accord.
Parce que des fois, il y a d'autres priorités.
Quel genre d'autres priorités?
Par exemple, si vous avez un gamin qui est déprimé, on sait que les résultats souvent du test sont un peu faussés et la priorité, c'est peut-être de travailler la dépression.
D'accord, d'accord.
Ça va dépendre, c'est au cas par cas. Ça, je ne peux pas vous donner une recette.
Oui, c'est ça.
C'est vraiment au cas par cas, en fonction des répercussions sur le système familial, sur la représentation de soi, sur la dynamique scolaire, mais aussi sur les priorités en termes de prise en charge.
Les tests vraiment sérieux, ça se fait auprès uniquement de psychologues ou est-ce qu'il y a d'autres interlocuteurs? D'accord, ok.
Les neuropsychologues, les neuropsy aussi. Mais c'est un psychologue, c'est juste
oui,
une
oui.
de la psychologie.
Ok, d'accord. Et
les psychologues scolaires peuvent les faire passer aussi parce qu'ils sont formés.
Ah oui, c'est vrai. Je vais tout noter comme ça. Okay. Et Quel genre donc du coup de difficultés peuvent rencontrer les adolescents et peut-être les jeunes adultes aussi je lisais beaucoup que voilà il y avait aussi l'échec scolaire qui parfois pouvait s'expliquer par le haut potentiel intellectuel. Est-ce qu'il y a d'autres difficultés? Est-ce qu'il y a d'autres
Alors bon, pour l'échec scolaire, c'est plutôt une anomalie hein, chez les personnes à haut potentiel. Il faut bien comprendre que c'est rare, en fait, l'échec scolaire chez les personnes à haut potentiel, normalement.
D'accord.
En fait, ce qui se passe, c'est qu'on identifie beaucoup les personnes à haut potentiel ou les jeunes à haut potentiel qui posent des problèmes, soit en termes d'échec scolaire, soit qui ont des difficultés relationnelles ou des choses comme ça. Parce qu'en fait, ceux qui ne posent pas de problème, en général, ils ne consultent pas.
Eh oui, 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 oui.
Donc, on les voit rarement en cabinet. Ce qui fait que d'un point de vue clinique, il y a beaucoup de cliniciens qui, du coup, ont une vision, on va dire, qui n'est pas un peu déformée, de peut-être liée à leur pratique. Parce qu'eux ne voient que cette partie de la population. Et ils construisent, du coup, des représentations de facteurs d'échec scolaire ou de choses comme ça. Alors qu'en fait, en réalité, c'est lié à une meilleure réussite scolaire en moyenne.
D'accord.
Évidemment. L'intelligence réussit mieux à l'école, ça paraît logique.
Oui.
mais dans certains cas particuliers, et en fonction de l'environnement, il peut y avoir des phénomènes de décrochage scolaire liés par exemple à l'envie ou à un défaut de stimulation.
Ah oui.
Ça, on peut le voir arriver. Mais quand vous avez un gamin à haut potentiel qui ne réussit pas à l'école, il faut toujours investiguer la présence d'autres troubles ou d'autres difficultés.
D'accord.
Parce que très souvent, c'est expliqué par autre chose.
C'est pas uniquement le fait ou même carrément non. Pas le fait du haut de la haute potentialité.
C'est okay. Souvent en interaction avec l'hypersensibilité. Parce que, donne un exemple. Par exemple, vous avez un gamin qui s'ennuie à l'école. Et ben, en fait, le gamin qui s'ennuie à l'école, il peut avoir plusieurs stratégies. Soit il finit plus vite que les autres, il dessine, il fait autre chose, il rêve, il écrit, je sais pas, il fait autre chose.
Oui.
Soit il fout le bordel.
Oui.
Mais ça dépend de sa personnalité.
Et oui, oui.
Vous voyez ce que je veux dire? Et le fait d'entrer en confrontation avec le professeur, en opposition, ça dépend aussi de sa personnalité. Et ça dépend aussi de l'enseignant qui est en face, on est d'accord. Hein. Des enseignants qui sont très habiles et qui accueillent des questions un petit peu pointues en valorisant. Vous en avez d'autres qui se sentent attaqués par des questions un peu pointues qui vont venir viser leur contenu de cours. Donc ça, c'est une affaire souvent d'interaction, de personnalité et aussi d'intelligence, mais pas uniquement d'intelligence. C'est-à-dire que quand on a des capacités plus élevées et qu'on est en avance sur le programme et qu'on s'ennuie, en fait, on peut très bien réagir autrement que soit en décrochant ou en mettant le bazar. Voilà. Maintenant, c'est vrai que quand ça se passe, là, il peut y avoir vraiment un enjeu d'identification parce qu'on peut faire un saut de classe, par exemple. Et ça peut déjà régler beaucoup de problèmes au niveau de l'ennui et avoir un mieux-être à l'école.
D'accord, oui.
Donc oui, quand on voit un gamin qui est en souffrance lié à l'école et qui va bien par ailleurs, on peut effectivement se dire que lui donner plus de nourriture intellectuelle, ça peut contribuer à régler le problème.
D'accord. Et quand on se sent donc dans ce décalage, mais social, là pour le coup avec ses pairs, quelle solution il peut exister pour limiter cette sensation en fait et quelle piste on peut explorer pour
Alors bon, déjà c'est d'essayer de favoriser le fait de rencontrer d'autres ados à haut potentiel ou d'autres adultes à haut potentiel ou en tout cas qui vont partager du centre d'intérêt intellectuel. Donc ça peut se faire dans le parcours des études. Hein, très souvent, bon, au collège, ils n'ont pas beaucoup de répondants en face d'eux, sauf s'ils ont la chance de trouver un copain qui a un fonctionnement un peu similaire. Au lycée, ça va déjà un peu mieux, mais c'est pas encore ça complètement. Et souvent, c'est dans les études supérieures où là, de plus en plus, il y a du tri. Et donc, de plus en plus, on augmente la chance de rencontrer des personnes avec les mêmes centres d'intérêt, avec les mêmes performances, que du coup, cet isolement se réduit de plus en plus. Même si vous avez des personnes à haut potentiel qui, en fait, ont des intérêts variés, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est à haut potentiel qu'on n'aime pas le foot.
Oui, bien sûr.
Et dans ce cas-là, bon, on partage d'autres choses avec les autres. Ça, c'est pas un souci. Mais quand on a, effectivement, pour les profils qui ont vraiment plutôt une exclusivité un petit peu dans le monde intellectuel, ce que je veux dire, avec des centres d'intérêt pointus qui sont liés à leurs différences. Là, il faut leur donner au maximum la possibilité de rencontrer en fait des personnes qui leur ressemblent.
D'accord.
Pour pouvoir partager un petit peu plus, reconnaître en l'autre, se dire qu'on n'est pas complètement bizarre, qu'il y en a d'autres qui fonctionnent comme nous.
Oui.
Et ça peut se faire en enrichissant aussi, c'est-à-dire soit en proposant par exemple des activités extrascolaires quand ils sont au lycée, qui vont être en accord avec leur centre d'intérêt. Et du coup, ça va augmenter leur possibilité de rencontrer des gens un petit peu qui sont sur le même centre d'intérêt pour augmenter les possibilités de partage. partage. Et ensuite, ça se fait très souvent, en fait, à la faveur des études, quand ils entrent sur des cycles supérieurs ou sur des cycles vraiment qui sont source de passion pour eux, où là, ils vont augmenter les chances de rencontrer des personnes qui leur ressemblent.
D'accord.
Mais par contre, la question reste posée pour les ados à haut potentiel, qui certes sont intelligents, mais qui n'ont peut-être pas forcément envie de faire des longues études, ou qui vont aller sur des parcours plus courts, où là, effectivement, ils vont pouvoir des fois expérimenter un milieu social qui, même s'ils arrivent à s'y intégrer, va pas forcément répondre à tous leurs centres d'intérêt ou tous leurs besoins.
Excusez-moi, hein, s'il y a des blancs, c'est parce que je note en même temps. Et est-ce qu'on peut aussi se rapprocher, par exemple, d'associations où il y aurait peut-être d'autres jeunes dans notre...
On peut se rapprocher d'associations. Par exemple, MENSA est une association qui est réservée aux personnes à haut potentiel intellectuel.
Oui.
Et qui véhicule... parce qu'il faut faire attention sur les associations. Effectivement, vous avez du bon et du moins bon.
Ah,
vous avez des associations qui véhiculent une vision très pathologisante et communautaire du haut potentiel. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, complètement. Oui.
Donc là, il faut faire attention parce que ça peut entraîner à s'enfermer dans un certain vécu d'inéluctabilité d'une souffrance pour ceux qui sont en souffrance. Donc il faut. Mais il y en a d'autres qui sont tout à fait très bien. Je peux vous donner l'exemple de MENSA, par exemple, auquel je pense. Et vous avez des associations comme ça, notamment MENSA, je sais que par exemple en Belgique, mais ça doit être le cas en France, il y a des activités qui sont organisées pour les membres.
Oui, j'ai vu. Oui.
Lecture, voilà, des choses comme ça. Ça, vous pouvez vous adresser à eux éventuellement.
D'accord.
Si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus. Et ça peut être bien, oui, effectivement, pour des ados HPI.
Ok. Et l'Association nationale pour les enfants intellectuellement précoces, elle est une bonne association ?
Je ne la connais pas. D'accord. Je la connais pas personnellement. Vous vous regardez à la limite sur leur site. S'ils n'éduquent pas une vision, j'ai envie de dire, du haut potentiel comme étant un trouble,
oui.
C'est bon.
D'accord, ok.
Ça dépend de la vision qui est véhiculée.
Oui, voilà. Ok.
Si on axe sur la ressource, sur le partage de besoins communs, sur quelque chose de bienveillant mais pas stigmatisant, c'est bon. Si on est dans un truc très communautaire qui dit oulala, c'est une souffrance, on est différent, personne ne comprend, c'est terrible, on est complètement marginalisé, là, par contre, c'est pas hyper aidant.
Non, effectivement. Effectivement. Et au niveau de l'équipe éducative, dans les collèges, les lycées notamment, est-ce que les gens sont formés quand même pour être face à ces jeunes et à leur apporter du soutien ou de l'aide ou des conseils, etc. Ou est-ce qu'il y a quand même une difficulté au niveau de l'éducation nationale à suivre ces jeunes-là? Ou est-ce qu'un jeune peut carrément aller voir, voilà, vous me disiez, une psychologue scolaire, il ne faut pas hésiter à y aller ou...
Effectivement, aller voir la psychologue scolaire. Alors, ça dépend des équipes et ça dépend des professionnels et ça dépend des sources d'information, évidemment.
Oui.
Comme je vous ai dit, il y a différents types de représentations. Et en fait, à l'heure actuelle, même certains professionnels ne sont pas tout à fait exempts de ces représentations-là.
D'accord.
Ce que je veux dire.
Oui.
Mais la plupart du temps, il existe effectivement dans l'éducation nationale des référents, même sur le haut potentiel.
D'accord.
Et après, c'est au cas par cas, en fonction de l'équipe éducative, de si l'enseignant est un petit peu averti sur le sujet ou pas, ou tout simplement, si on va dire qu'il a du bon sens, ou voilà, un sens pédagogique et psychologique particulier. C'est vraiment au cas par cas, mais il existe effectivement des possibilités d'aller voir le psychologue scolaire quand il y a des problématiques liées aux apprentissages en classe et qu'on suspecte un potentiel. Il n'est pas nécessaire, par contre, pour un peu de place, il n'est pas nécessaire d'objectiver le haut potentiel.
D'accord.
Que parfois, on conseille d'aller faire passer un test, mais il faut savoir que ce n'est pas nécessaire.
Ok.
Voilà. On peut très bien faire... Ça dépend des performances aussi de l'élève. Et même si parfois, on le demande, ce n'est pas obligatoire.
D'accord, ok.
Oui, ce n'est pas obligatoire. Donc là, oui, on peut saisir. Et puis, vous avez des équipes qui sont très bienveillantes et qui peuvent collaborer aussi avec des psychologues à l'extérieur. Enfin, ça prend tout dépend des gens qui sont sur place.
C'est pour, en fait, donner un peu une idée de tous les gens vers lesquels on peut se tourner, en fait, quand on est dans un doute ou dans cette situation, qu'on le sait et qu'on ne sait pas trop vers qui se tourner. Voilà, c'est histoire de donner un peu des pistes, quoi. Voilà, des associations,
un psychologue clinicien, soutien. Quand voilà. On s'en école, on s'est évidemment tourné vers l'équipe éducative et vers la psychologue scolaire.
Ok. Et juste une petite dernière question. Là, alors, pour l'instant, c'est une première partie sur vraiment les jeunes qui ne savent pas encore vraiment, ils n'ont pas passé de test, mais ils se posent des questions. Voilà. Quels conseils vous pourriez leur donner à ces jeunes-là qui sont dans une situation peut-être pas forcément de mal-être, mais en tout cas, de comme vous me disiez, de sensation de décalage et, qui, voilà, et de doute. Quels conseils vous pourriez leur donner?
Bah, déjà, d'explorer, de développer une meilleure connaissance d'eux-mêmes, c'est-à-dire de savoir de quoi ils sont faits. Mmh. Ils peuvent consulter, je pense, quand ils sont dans un doute comme ça, aller voir un psychologue, même pour quelques séances, c'est toujours intéressant parce qu'on a un avis un peu extérieur, on a aussi un professionnel qui aide à mettre des mots sur le sentiment différent, sur éventuellement du mal-être, s'il est plus ou moins important, et qui oriente vers aussi différentes pistes d'exploration. Pour éviter une explication exclusive, nécessairement, et qui va les aider parce que à l'adolescence, la question de la construction identitaire, elle est très importante.
Oui.
Donc, la représentation qu'on se fait de soi, c'est quelque chose d'important parce que c'est aussi là-dessus qu'on va se baser pour développer notre confiance en nous, notre estime de nous-mêmes, et que ça a aussi des répercussions sur des moments cruciaux, puisqu'il y a des moments de choix. Important.
Hein. Oui.
Les ados, les jeunes adultes ont beaucoup de pression pour faire des choix au niveau scolaire, dont on leur explique dès le départ qu'ils auront énormément d'incidence sur toute leur vie. Donc effectivement, bien se connaître ses besoins, savoir de quoi on est fait, et pouvoir en alimenter sa construction identitaire et se baser dessus pour faire des choix, c'est important.
D'accord. Ok. Et à l'inverse,
potentiel ou pas d'ailleurs.
Oui.
Effectivement, d'intégrer cette notion-là pour les jeunes qui doutent de leur confiance en eux, c'est très intéressant.
Oui, c'est vrai que pour les profils qui avec lesquels ça se couple avec un manque terrible de confiance en soi, c'est vrai que ça peut être que positif de se faire accompagner et d'apprendre effectivement.
Mais non, voilà.
Okay.
Mais il faut aussi être à l'écoute des différents besoins, c'est-à-dire de ceux qui peuvent être liés au potentiel, mais de ceux qui peuvent être liés aussi à d'autres caractéristiques, parce qu'on n'est pas que notre intelligence.
Oui.
Plein d'autres choses aussi.
Ok. Et alors, à l'inverse, un conseil pour ceux qui le sont, hein, ils ont été testés et ils savent que ils sont au potentiel. Est-ce qu'il y a un conseil de vie, entre guillemets, qu'on pourrait donner pour ces jeunes?
Un conseil qu'on pourrait leur donner, c'est que cette représentation selon laquelle, et c'est surtout vrai au lycée et ensuite dans les études supérieures, quand on est au potentiel, tout est facile, n'est pas forcément juste. Pour transformer un don en talent, c'est-à-dire pour conduire à des réalisations exceptionnelles et pour arriver à l'exprimer pleinement à travers des performances, il faut quand même du travail. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'en fait, on est un peu au même lot que tout le monde. Et on veut transformer ces compétences-là en réalisation. Il y a un investissement aussi personnel, bien sûr. C'est-à-dire qu'il faut dire que c'est normal, en fait, de ramer un peu au lycée. C'est-à-dire, même quand on est à haut potentiel, c'est pas pour autant qu'on réussit tout de suite et sans effort.
D'accord.
Ça, c'est important, parce qu'ils ont souvent cette représentation-là. Quand ils ont été identifiés enfants, pour certains, ils ont pris l'habitude que tout était facile. Et quand ils se retrouvent confrontés à une forme de difficulté, ils peuvent mal le vivre. Donc ça, il faut savoir que c'est le cas. Il y en a pour qui ça pose pas de problème parce qu'ils ont déjà enclenché le phénomène du travail et ils ont vu qu'ils avaient des super récompenses quand ils bossaient et du coup ça les alimente. J'ai envie de dire que quand ils le savent, bien sûr il faut se l'approprier, c'est important, c'est une super ressource. Mais il faut aussi se dire qu'on ne se réduit pas à ça. Il faut rester ouvert en fait à ce qu'on ait d'autres et notamment écouter parfois d'autres besoins. On aurait souvent tendance à orienter les personnes au potentiel et qui ont des compétences élevées et qui ont des bonnes performances scolaires vers certaines voies dont on juge qu'elles sont plus royales que d'autres. Et parfois, on en oublie peut-être ce que leurs aspirations à eux, leurs autres intérêts, leurs autres formes de passion, et que peut-être, en fait, on peut se construire avec d'autres bases que l'intelligence aussi. Et que c'est pas parce qu'on est intelligent qu'on est obligé d'aller dans des voies d'excellence, par exemple.
Oui, je comprends, oui.
Voilà. Donc il y a un doute, ça dépend du profil. J'ai envie de dire, voilà, ça c'est pour ceux qui sont un peu déstabilisés parce que ça devient de plus en plus difficile. Leur dire, bah non, c'est normal, pour que le don se transforme en talent, il faut travailler. Et donc, l'expérience de la difficulté, elle est normale. Mm-hmm. Voilà. Et pour ceux qui ont déjà activé travail et qui sont performants, qui savent comment le faire, de leur dire attention au désir des autres. Et de se dire qu'en fait, il faut aussi continuer à s'explorer soi, parce qu'il n'y a pas que les besoins intellectuels, et qu'on peut être amené des fois, même si on est intelligent, à suivre des voies différentes, ou en tout cas, qui ne seraient pas les voies réelles qu'on imagine pour un enfant avec des performances intellectuelles élevées.
Mmh. Ok. Bah écoutez, moi j'ai.
Ne pas s'enfermer là-dedans, quoi. Ne pas s'enfermer là-dedans.
Oui.
Avec un avenir
oui.
qui serait un peu tracé uniquement d'après des performances intellectuelles. Avec des conseils trop extérieurs.
Et là, est-ce qu'il y a un travail qui se fait aussi conjointement avec les parents, par exemple ? Parce que c'est vrai que souvent, il y a aussi une pression familiale.
Ouais. Avec les parents, c'est-à-dire de ne pas projeter trop d'attentes sur l'enfant, trop de pression sur l'ado. Le deuxième travail, c'est aussi, j'ai envie de dire, auprès des enseignants, c'est-à-dire qu'on avait tendance, alors maintenant les filières sont différentes, mais à l'époque, à orienter tous les enfants qui avaient des bonnes performances sur des filières scientifiques, par exemple.
Oui.
Disant, toi, tu vas faire S,
et oui.
C'était bon partout, parce que S, c'est des filières d'excellence. À vous aviez des pauvres petits littéraires là, qui eux rêvaient que de faire des choses différentes,
oui.
qui sont bons dans les matières scientifiques, mais et qui se retrouvent après à gérer des reconversions professionnelles à 30 ans, parce qu'en fait ils sont ingénieurs, très bien, mais en fait ils n'aiment pas ce qu'ils font.
Et oui.
Donc ça peut arriver.
D'accord.
Ou des gens en études de médecine. Enfin, vous pouvez avoir ce type de questionnement en fait, mais au fond, moi, ce que j'aime vraiment, c'est pas ça. Et en fait, comment ça se fait que je suis pas heureux alors que j'ai tous les diplômes qui vont avec et j'ai du boulot et tout ça. Vous en avez qui sont très bien dans leur voie et vous en avez d'autres pour qui ça morce à ce moment-là une crise, en fait, un peu identitaire, une crise de vie et qu'on accompagne plus tard. Donc, cette question-là d'écouter aussi, en fait, les aspirations ou les passions de l'enfant, quand on est bon partout, c'est important.
Et oui.
Pas, en fait, faire l'amener à faire des choix extérieurs, c'est-à-dire des choix qui ne sont pas motivés par ses aspirations internes.
Oui, c'est vrai. Et c'est vrai même quelque part pour tous les enfants et pas uniquement ceux qui sont au potentiel finalement, c'est savoir s'écouter.
Bien sûr.
C'est sûr.
Les attentes qu'on projette dessus, elles peuvent être importantes et l'enfant lui-même peut être pris dans ses attentes. Dans ses attentes-là.
Ok. Bah, écoutez, bon, moi j'ai plus de questions. Après, peut-être que vous verriez quelque chose, j'aurais peut-être pas pensé à vous demander, ou une information importante à dire ou sur ce sujet.
J'ai envie de dire l'important pour les ados comme pour les adultes, c'est de surtout bien connaître soi-même. En fait, c'est une connaissance assez complète de soi pour envisager différentes caractéristiques. C'est aussi se dire que au potentiel. Même si ça peut parfois pas être facile à vivre dans certains environnements, c'est quand même avant tout une grande ressource qu'on pourra exploiter toute seule.
Ok. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. C'était vraiment très, très intéressant. Ça m'a permis de mieux cerner ça.
Si vous voulez des informations plus précises, notamment parce que là, j'ai pas l'intervalle de confiance précis en tête, n'hésitez pas à m'envoyer. L'article ou les éléments.
Il n'y a pas de souci.
Je vous donne un premier regard pour corriger les éléments techniques.
Avec plaisir, oui, il n'y a pas de souci. Je
vous donner un regard, vous savez, vous n'avez pas les formulations citées, c'est un peu trop.
Oui, oral. Oui. Après, c'est vrai que je suis un peu.
C'est pas par un gérant, c'est juste pour être sûr.
Je comprends, oui. Et même moi, ça me rassurerait. Oui. Bien sûr. Après, voilà, il faut aussi... Enfin, c'est vrai que moi, j'essaie de vulgariser quand même parce que je m'adresse à des adolescents, à des jeunes adultes.
Ah oui, bien sûr.
Mais c'est vrai que je ne veux pas dire d'erreur, je ne veux pas être dans une info faussée, quoi. Ce n'est pas le but. Donc,
Voilà, je tiendrai compte de l'idée que c'est vulgarisé.
Ça marche.
Ça ne choque pas du tout.
Okay.
Juste pour vous dire s'il y a un truc qui n'est vraiment pas exact.
Ben, exactement, oui.
Vous donner un chiffre si vous utilisez un chiffre qui soit le bon.
Parfait. Parfait, oui. Mais pas de souci.
N'hésitez pas à me l'envoyer par mail, puis je vous répondrai.
Et puis, si jamais j'avais des doutes aussi, je peux essayer de vous recontacter par téléphone si vraiment j'ai un gros doute. Ah, ça marche. Super.